Je ne sais plus à quel moment j'ai capitulé. Peut-être le jour où j'ai compris combien l'écriture, mon écriture, était liée à elle. Dorénavant, quelque chose était derrière Lucille, qui s'éloignait déjà, dont peu à peu elle perdrait le souvenir ou ne garderait que quelques fragments. Je n'avais que des morceaux épars.
Quelque chose qu'un jour, sans doute, elle regrettait.
Et le fait même de les ordonner constituait déjà une fiction.
Qui appartenait à l'enfance et s'éteignait avec elle.
Rien ne s'oppose à la nuit.
Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux. 4e épisode. Tom est allongé dans son berceau, les yeux grands ouverts. Depuis plusieurs minutes, il émet des cris aigus pour appeler sa sœur. Justine, elle, joue avec Solange, une amie de classe.
Tu veux que je te montre comment on change un bébé ?
Ouais.
Regarde.
Justine embrasse les joues de son petit frère, son ventre, ses petits bras, comme elle a vu si souvent sa mère le faire. Fière de montrer à Solange qu'elle sait s'occuper du bébé.
Et puis tu fais plein de bisous. C'est moi qui lui donne le biberon aussi. Et quand les parents sont pas là, il dort avec moi.
Il est mongol, ton frère.
N'importe quoi.
Elle prend l'enfant dans ses bras et sort de la chambre sans un mot. Le soir, après que Solange soit partie, Justine frappe à la porte de Milo.
Qu'est-ce que tu veux ?
C'est vrai que Tom est mongolien ?
Oui, c'est vrai.
Comment tu le sais ?
C'est maman qui l'a dit à Lisbeth, qui l'a dit à Lucille, qui me l'a dit.
Justine sent un grand chagrin l'envahir. Elle sort précipitamment de la chambre de Milo et dévale l'escalier pour rejoindre sa mère. Liane est dans la cuisine avec Violette.
C'est vrai que Tom est mongolien ?
C'est vrai, ma reine chérie. Mais on ne dit pas mongolien. Tom est trisomique. Ça veut dire qu'il est handicapé et qu'il ne sera jamais comme les autres enfants. Mais nous lui apprendrons beaucoup de choses et nous essaierons de faire en sorte qu'il soit heureux.
Dis, maman, on ne pourra pas le réparer.
Je veux pas que Tom soit trisomique, ni handicapé, ni rien du tout. Je veux qu'il soit fort et normal et qu'il puisse se défendre. Tom va grandir. Quand il sera un petit garçon, on regardera dans la rue et dans le métro. On se retombera sur lui, on dira des messes basses derrière son dos. Et ça, courir de lui, je ne veux pas.
Justine !
Justine sort de la cuisine, monte l'escalier en larmes et tombe nez à nez avec Lucille. Lucille l'attrape par les épaules et l'attire dans sa chambre. Depuis toujours, Justine est en colère. Elle ne termine jamais son assiette, ne supporte pas la contrariété, entre dans des rages folles dont on ignore généralement la cause. Justine lutte contre sa mère. On dit qu'elle est une enfant difficile. Le reste, on l'a presque oublié.
Qu'est-ce qui te rend si triste ?
C'est à cause de Tom. Il est mongolien.
Et alors ? Ce n'est pas si grave.
Mais si on se moque de lui ?
Personne ne se moquera de lui. Papa et maman le protégeront. Et nous aussi.
Au commencement, lorsque j'ai fini par accepter l'idée d'écrire ce livre, après une longue et silencieuse négociation avec moi-même, je pensais que je n'aurais aucun mal à y introduire de la fiction, ni aucun scrupule à combler les manques. Au lieu de quoi je ne peux toucher à rien. Incapable de m'affranchir tout à fait du réel, je produis une fiction involontaire. Je cherche l'angle qui me permettra de m'approcher encore, plus près, toujours plus près. Je cherche un espace qui ne serait ni la vérité ni la fable, mais les deux à la fois.
Thank you.
Jean-Marc n'est pas descendu pour prendre son petit déjeuner. Il n'est pas descendu non plus pour la messe de 10 heures. Liane sent s'installer en elle un nœud d'anxiété.
Qu'est-ce qu'il fait? Je vais aller le réveiller. Non, il a eu son entraînement de natation hier. Il a besoin de se reposer. Je peux bien le laisser dormir. Je vais l'attendre. On ira à la messe de midi.
Liane aime ce rendez-vous, entre elle et lui. Un moment qui n'appartient qu'à eux. Jean-Marc est le seul de ses enfants qui croit en Dieu. Milo et les aînés refusent depuis longtemps d'aller à la messe. Georges n'est pas entré dans une église depuis la mort d'Antonin. Justine et Violette participent au catéchisme. Elles ne s'en plaignent pas, mais elles sont trop jeunes pour partager vraiment sa foi. Jean-Marc aime prier, à genoux et les mains jointes.
Je voudrais que ma voix monte vers le ciel. Un jour peut-être, elle ira jusqu'au Seigneur.
Jean-Marc ne prie pas pour lui-même, mais pour les autres, ceux qu'il sait inquiets ou malheureux. Jean-Marc n'est pas descendu non plus pour la messe de midi.
Son entraînement a dû l'épuiser. Il peut bien rater la messe un dimanche. Demain, c'est la rentrée. Bon, j'y vais. Je le réveillerai à mon retour.
Liane enfile son manteau, monte les escaliers et frappe à la porte de la chambre de Lucille.
Je pars à la messe, ma reine chérie. Il faudrait mettre le poulet au four vers midi et quart. J'ai tout préparé.
D'accord, maman. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Liane prend le chemin de l'église. Elle sent la petite boule enflée dans son ventre, refuse d'y prêter attention, accélère le pas. Soudain, elle s'arrête.
Ce n'est pas normal. Il se passe quelque chose. Il ne dort jamais si tard et ne rate jamais la messe.
Liane fait demi-tour et se met à courir jusqu'à la maison. Ouvre la porte, puis monte les marches 4 à 4. Lucille entend sa mère entrer et monter l'escalier, puis frapper à la porte de Jean-Marc, l'appeler plusieurs fois.
Jean-Marc.
Lucille entend sa mère ouvrir la porte, puis elle n'entend plus rien. Liane découvre l'adolescent allongé sur son lit, un sac en plastique enfoncé sur la tête. Elle se jette sur lui, retire le sac d'un geste brusque et découvre son visage. Sa bouche est restée ouverte, à la recherche d'air.
Est-ce qu'à 15 ans, ou presque, on peut s'endormir avec un sac en plastique sur la tête sans l'avoir voulu, sans l'avoir choisi?
Telle est la question que se pose Lucille, comme sans doute la plupart de ses frères et sœurs. Et si Jean-Marc avait décidé de mettre fin à ses jours, quel malheur, quel abandon était-il à l'origine de sa détresse? Personne ne s'en était rendu compte. Jean-Marc avait l'air heureux. De quoi étaient-ils coupables, eux qui vivaient encore, eux qui n'avaient rien vu?
J'ai appris beaucoup plus tard par Violette que Jean-Marc était mort d'hypoxiphilie, appelée également asphyxie auto-érotique, c'est-à-dire lors d'une séance de masturbation où il cherchait à amplifier son orgasme par la suffocation. Jean-Marc, semble-t-il, s'adonnait à des pratiques masochistes et fétichistes.
On y va? Ouais, bon, attends, j'essaie le micro, donc ça marche. Donc ça t'embête pas, je t'enregistre comme ça?
Non, pas du tout.
Parce que pour moi c'est plus simple, après je retranscris tout, tu
ouais,
vois.
Ouais, oui. Puis s'il y a des choses qui me reviennent, je te rappellerai, enfin je te dirai.
D'accord. Donc, ouais, ça a l'air bon. Tout marche. En tout cas, je suis désolée de demander ça, mais j'aimerais beaucoup qu'on revienne, que tu me parles des circonstances de la mort de Jean-Marc.
D'accord. Oui, non, mais je comprends. Tout ce que je peux te dire, c'est que quelques semaines avant sa mort, je suis allée dans sa chambre sans prévenir. Je voulais récupérer une culotte qu'il m'avait volée. Et j'ai surpris avec un foulard enroulé autour du sexe et en train d'y planter des épingles.
J'essaie aujourd'hui de reconstituer la manière dont les événements s'enchaînent. L'ampleur de l'impact.
Bon, j'ai gardé pendant longtemps un article qui avait fait la une d'un journal de l'époque. L'enfant martyr n'a pas survécu à son passé. Ce titre a eu papa hors de lui. Ce jour-là, Lucille était là, dans sa chambre, pas loin. Et c'est Liane qui a découvert le corps de Jean-Marc. Elle a appelé Georges pour qu'il rentre en urgence. Milo a pleuré pendant 10 heures. Il était inconsolable. Comme l'avait été Barthélemy à la mort d'Antonin. Tu sais, il y a quelques années, j'ai décidé de jeter tous ces mauvais souvenirs, tu vois. Je sais pas si j'ai bien fait. Chacun fait comme il peut.
C'est dans cette posture, c'est-à-dire délestée du pire, que Lisbeth a passé plusieurs heures à me raconter l'histoire de notre famille. La souffrance affleure à chaque phrase, sans jamais être dite. Lisbeth n'est pas la seule. Chacun fait comme il peut et je respecte aujourd'hui sa ligne de défense ou de survie qui est, à peu de choses près, semblable à celle de Barthélemy. Peut-être parce qu'ils sont les aînés. Peut-être parce qu'ils ont été les plus exposés. Aujourd'hui, Lisbeth et Barthélemy ont choisi de garder le meilleur, le plus fantasque, le plus lumineux. Ils ont jeté le reste. Ils ont peut-être raison. Comme les autres, ils ont accueilli mon projet avec enthousiasme. Et comme les autres, ils se demandent à l'heure actuelle ce que je vais faire de tout ça. Ils tracassent, comme on dit dans notre famille. Je pense souvent à eux lorsque j'écris. Lisbeth, Barthélemy, Justine et Violette, avec la tendresse infinie que j'éprouve pour eux, mais aussi la certitude que j'ai aujourd'hui de les heurter, de les décevoir. Je ne parle pas de Tom, adoré de tous, qui a 48 ans et vit depuis quelques années dans un foyer d'accueil pour handicapés mentaux. Il est le seul dont j'ai la certitude qu'il ne me lira pas.
Le dernier été que Lucille passe avec ses parents à Alicante, Lucille et Gabriel font l'amour pour la première fois. Ils se sont vus plusieurs étés, se sont étendus côte à côte sur la plage, sont sortis en bande le soir venu. Gabriel est le plus jeune frère de Marie-Noël, la collaboratrice de Georges. Quelques semaines plus tard, Liane observe les seins de sa fille, dont la peau fine est tendue à l'extrême, chaque jour un peu plus volumineux. Lucille est enceinte. Dans le salon de Versailles, on parlemente.
Vu son état, il vaut mieux que Lucille se marie.
Elle a 18 ans, elle n'est pas majeure, mais tu sais bien que nous n'avons jamais joué aux gendarmes avec nos enfants.
Mais Gabriel a seulement 21 ans.
Ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient heureux dans la vie, non?
Oui, tu as raison. De toute manière, on doit respecter son choix.
C'est à elle de décider.
Lucille n'hésite pas. Elle est amoureuse de Gabriel. Le temps est venu pour elle de quitter sa famille, de fonder la sienne, de vivre une vie de dame. De tous ses frères et sœurs, elle est la première à partir. Elle ouvre la voie des lendemains. Celle-ci, pour la première fois, lui apparaît distinctement, claire et lumineuse. Au début de mars, Lucille accouche d'une petite fille dans une clinique de Boulogne. Plus tard, Lucille et Gabriel s'installent dans un appartement du 13e arrondissement.
J'aurais voulu donner à lire ma famille dans ce qu'elle avait de plus joyeux. Cette vitalité bruyante et excessive qui l'animait. Cette manière puissante de lutter contre le drame. J'aurais voulu donner à lire les multiples étés que Liane et Georges ont passés avec leurs enfants. Cette capacité que Georges avait de vivre au-dessus de ses moyens, de dénicher des endroits à sa démesure et au moindre coup, d'y entraîner sa tribu. L'enfance de Lucille a disparu avec elle et nous restera à jamais opaque. Lucille est devenue cette femme fragile, d'une beauté singulière, drôle, silencieuse, souvent subversive, qui longtemps s'est tenue au bord du gouffre, sans jamais le quitter tout à fait des yeux. Cette femme admirée, désirée, qui suscita les passions. Cette femme meurtrie, blessée, humiliée, qui perdit tout en une journée et fit plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Cette femme inconsolable, coupable à perpétuité, murée dans sa solitude. Je n'ai pas encore évoqué le documentaire qui fut réalisé sur ma famille au cours de l'année 1968, soit 2 ans après le mariage de Lucille. L'émission est consacrée au rapport entre parents et adolescents. Le reportage réalisé chez mes grands-parents clôt l'émission.
La famille qui va vivre maintenant sous nos yeux, nous ne vous la présentons pas comme un modèle éducatif au sens habituel du terme, car il n'y a pas de recette en éducation, il n'y a pas de truc. N'en attendez ni de nous, ni des jeunes, ni des spécialistes.
Le reportage s'ouvre sur l'image du premier palier de la maison de Versailles. Milo surgit dans le champ pour répondre au téléphone.
Lisbeth, c'est pour toi.
J'arrive.
Lisbeth accourt pour prendre l'appel. Sa voix est aussitôt couverte par le commentaire.
Ah, bonjour Edouard.
Lisbeth, 24 ans. Barthélémy, 23 ans, marié à Colline. Ils ont un bébé de 6 mois. Lucille, 21 ans, mariée.
On découvre maintenant
Gabriel,
les poiriers réunis autour de la grande table de la salle à manger. La conversation est animée. Tout le monde rit.
Pour que la famille soit au complet, il faut nommer Tom, 6 ans, qui est au lit. Et 2 garçons disparus accidentellement. Après des années de gêne et d'inconfort, la famille s'est installée dans une maison à Versailles. Il est rare qu'on s'ennuie dans une famille nombreuse. Mais celle-ci a reçu une éducation qui explique peut-être sa personnalité et sa fantaisie.
Ces images donnent à voir quelque chose que Lucille a perdu quelques années plus tard, que la vie a brisé en 1000 morceaux. Comme dans les contes où les sorcières aux doigts crochus s'acharnent avec rage sur les princesses trop jolies. Lucille crève l'écran. Elle est d'une beauté stupéfiante, pétille d'intelligence. Quelques images me montrent enfant à côté d'elle, absorbée par un jeu.
Je suis d'un tempérament très angoissé.
Je crois qu'au moment où Lucille est interrogée, c'est exactement ce qu'elle ressent.
S'il y a quelque chose qu'ils ont réussi, c'est qu'ils nous ont donné confiance en l'avenir.
Elle a peur et elle a confiance. La vie se chargera de trancher.
La priorité a été donnée à l'autonomie des enfants et à l'épanouissement de leur personnalité. L'important, c'est de savoir laisser sa progéniture quitter le nid.
Je prends le train seul pour aller à Paris depuis l'âge de 10 ans.
Je fais des voyages aux États-Unis et au Mexique.
Tout cela est vrai. On ne dit pas que Tom est trisomique. Il reste au lit pendant tout le reportage. Et on ne s'attarde pas sur les garçons morts accidentellement. Justine a détesté ce film. Et lorsque je l'ai retrouvé, c'est tout juste si elle a voulu le regarder. Elle m'a raconté dans quel état de malaise et de confusion elle s'était trouvée au moment du tournage et de quelle manière on lui avait suggéré, si ce n'est dicté, cette phrase sur Georges.
Oui, mon père c'est à la fois un papa, un ami avec qui on peut rire, on peut parler, on peut dire je crois n'importe quoi. Et quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit « Est-ce que je peux déjeuner avec vous demain ?» Et à ce moment-là, on déjeune en ami.
Tu sais, ce film a beaucoup blessé Milo. Ça l'a mis hors de lui. Le jour du tournage, il avait déballé sans retenue sa révolte et sa colère contre papa. Dans le film, il n'en reste aucune trace. On ne voit Milo que quelques secondes, écrasant une cigarette, tentant d'échapper à la caméra.
On est au cœur du mythe. Le film est à l'image de la légende que Liane et Georges écrivent à mesure qu'ils la construisent. Comme nous le faisons tous de nos propres vies. Je suis le produit de ce mythe. Et d'une certaine manière, il me revient de l'entretenir, de le perpétuer, afin que vive ma famille et se prolonge la fantaisie un peu absurde et désespérée qui est la nôtre. Pourtant, à la vision de ce reportage, à les voir tous si beaux, si bien dotés, à la fois si différents les uns des autres et si semblablement charismatiques, me sont venus ces mots. Quel gâchis! Que s'est-il passé? En raison de quel désordre? De quel poison silencieux? La mort des enfants suffit-elle à expliquer la faille, les failles? Car les années qui ont suivi ne peuvent se raconter sans les mots drame, alcool, folie, suicide, qui composent notre lexique familial au même titre que les mots fête, grand écart et skinotique. Au cours des entretiens que j'ai menés, certains parlent de désastre, y compris parmi les plus concernés. Et il me semble que ce mot est le plus juste si l'on considère que sur toute ruine, on peut reconstruire ce que chacun, à notre manière, nous avons fait. Ai-je le droit d'écrire que ma mère et ses frères et sœurs ont tous été, à un moment ou un autre de leur vie, ou toute leur vie, blessés, abîmés, en déséquilibre, qu'ils ont tous connu à un moment ou un autre de leur vie, ou toute leur vie, un grand mal de vivre, et qu'ils ont porté leur enfance, leur histoire, leurs parents, leur famille, comme une empreinte au fer rouge? Ai-je le droit d'écrire que Georges a été un père nocif, destructeur et humiliant, qu'il a hissé ses enfants au nu, les a encouragés, encensés, adulés et, dans le même temps, les a anéantis? Ai-je le droit de dire que son exigence à l'égard de ses fils n'avait d'égal que son intolérance et qu'il entretenait avec certaines de ses filles des relations au minimum ambiguës? Ai-je le droit d'écrire que Liane n'a jamais pu ou su faire contrepoids, qu'elle lui a été dévouée comme elle l'était à Dieu jusqu'au sacrifice des siens? Je ne sais pas.
Brave marin, reviens de guerre.
Liane, ma grand-mère, de sa voix douce, chantait des chansons d'une tristesse infinie. Liane a vous voyé ses enfants et ses petits-enfants d'un vous religieux et respectueux qui attendrissait mes amis. Elle nous appelait mon petit roi, ma reine chérie, mon gentil, ma gentille, ma reinette. Je lui disais tu et je l'adorais.
Madame, je reviens de guerre tout lourd. Qu'on m'apporte ici le vin blanc. Que le marin boit en passant tout doux. Brave marin, c'est mis de boire tout doux. Brave marin.
C'était Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Adaptation Louise Loubrieux. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Quatrième épisode. Avec Elsa Le Poivre, Johanna Nizard et Cécile Gérard, Laurent Lederer, Aurélie Nuzillard, Pauline Diadé, Agathe Le Bourdonnec, Lola Roskis, Éléonore Franchet-Gérard, Samuel Charles, Brigitte Lecordier, Thomas Sagols, Sophie Froissart, Françoise Lebrun, Sophie Doll, Agnès Proust, India R. Et les voix de Marie Daude, Philippe Chêne et Ombline de la Tessonnière. Bruitage Sophie Bissens, assistée d'Elodie Fiat. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Prise de son, montage et mixage, Catherine Déréter et Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan, est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.